Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work édition Clubhouse. Comme tous les vendredis à 18h, nous nous retrouvons sur Clubhouse pour parler d'un sujet avec l'équipe de coach et l'équipe de spécialistes RH qui m'entoure depuis maintenant plusieurs semaines avec un immense plaisir. Cette semaine, nous avons choisi de parler de motivation, d'engagement, et oui, il faut savoir que seulement 7% des salariés français se déclarent motivés, engagé ou très engagé. Donc le chiffre est vraiment très bas et c'est donc un vrai sujet. Pendant une heure, nous avons débattu entre nous avec les spécialistes, mais également avec vous, puisque certains d'entre vous sont montés sur le stage pour partager leur expérience ou donner leur point de vue. À partir de la semaine prochaine, cette room aura lieu le jeudi à 18h. Donc si vous voulez participer, venir nous rencontrer, parler avec nous, poser vos questions, vous êtes bien entendu toutes les bienvenues. D'ici là, j'espère que vous passerez un agréable moment à écouter ce replay aussi bon que nous avons eu à faire le direct. Bonne écoute. Chers amis, bienvenue sur cette room Happy Work du vendredi soir. Comme d'habitude, on va parler d'un sujet. Oui, nous avons choisi un sujet avec les modérateurs. Et l'idée, c'est que on va parler avec les modos. Et surtout, c'est que vous montiez sur le stage pour poser vos questions, pour faire vos remarques, pour commenter, pour être d'accord, pas d'accord. Donc c'est un peu le principe de cette room, tout en sachant que, bien entendu, cette room est une room... J'aime pas le mot « chill », mais mine de rien, cette room est profondément bienveillante, donc si on n'est pas d'accord, on a le droit de se le dire avec le sourire, et j'aime à le rappeler. Alors, cette semaine... on a choisi un sujet que Emmanuel nous a suggéré il y a une dizaine de jours, qui est l'engagement et la motivation. Alors, je dois bien avouer que quand il m'a suggéré ce sujet, je me suis dit, mais quelle bonne idée. Alors, pourquoi quelle bonne idée? Avant la pandémie, il y a eu une étude qui est sortie en 2017, qui est une étude qui a été faite par Gallup, donc qui est un gros institut de sondage, et qui avait montré que en France, le niveau d'engagement moyen était de 6%. Ce qui voulait dire que seulement 6% des salariés français se déclaraient engagés ou très engagés. Alors, j'entends les copains belges, béninois, canadiens, américains, tunisiens dire « Ouais, chez nous, c'est pas pareil, nous on est hyper engagés. » Non, non, les amis, on est dernier. Mais au taquet du taquet, ça monte qu'à 15%. C'est-à-dire que nous, on est au fond du trou, à 6%, mais au maximum, c'est 15% des salariés qui se déclarent engagés ou surengagés. Et là, je me disais, bon, la pandémie est passée, on s'en est pris plein la tronche, donc a priori, maintenant, c'est bon, on doit être super motivé. Eh bien, figurez-vous, l'étude Gallup est sortie il y a 15 jours, on est passé de 6% à... 7%. Oui, les amis, on a gagné 1%. Donc, j'en ris parce que au final, c'est risible. C'est-à-dire que on a envie que les gens soient motivés, on a envie d'être motivés, mais la réalité, c'est que les salariés ne le sont pas. Et en fait, j'ai envie de dire, cette room, ça va être un pour parler de comment on réengage les gens, mais j'ai envie de dire de façon un peu provocatrice, et je pense que ma première question sera pour Benoît, parce que il a ce côté, alors Benoît, je vais laisser les deux modos se présenter, mais je vais présenter un tout petit peu Benoît avant. Benoît est le premier fan de Bob, mon personnage de mes romans, de certains de mes bouquins, le pire manager du monde, donc Bob, ouais, c'est une horreur, et Benoît aime dire « Vive Bob !» Et bien entendu, tout ça est une blague parce que Benoît est quelqu'un de profondément bienveillant. Mais cher Benoît, avant de te poser la première question, je vais te laisser te présenter et après, je vais demander à Emmanuel de se présenter. Donc Benoît, qui es-tu en, allez, une phrase?
Oh, une phrase, qui je suis profondément, comment dire, versatile, pas versatile, kaléidoscopique. J'ai eu 1000 vies, j'espère en avoir encore 1000 à venir. Que ça soit professionnel ou personnel, j'ai toujours mixé différentes passions, différentes attraits, et je suis assez énergique dans ce domaine-là. Voilà.
Donc Benoît Panidis, donc si vous avez envie de suivre Benoît, donc je répète, hein, Panidis, parce qu'en fait c'est important, je me suis aperçu tous les premiers enregistrements, je vous présentais pas et c'était naze. Donc Benoît Panidis est un mec à mille vies et qui a plein de trucs intéressants à raconter, donc suivez-le sur Clubhouse, sur LinkedIn, où vous voulez, il vaut le détour. Emmanuel Moreau, en une phrase, qui es-tu?
J'arrive, je suis là, je dois jongler entre le portable qui s'éteint et tout ça. Alors moi, je suis recruteur, passionné de recrutement et puis copywriter qui parle justement beaucoup sur l'engagement, le travail, les RH, les soft skills. Voilà, je me définis comme ça. Et aujourd'hui, je suis porte-parole et business developer auprès d'une société qui s'appelle Work Well Together et qui accompagne à la fois les personnes en recherche de travail à mettre en avant leurs soft skills relationnels dans leur CV, et on accompagne aussi les entreprises sur tout ce qui est la dimension de la qualité de vie au travail, l'engagement des équipes, comment créer une équipe passionnée, et voilà.
Eh ben c'est cool. Eh ben Emmanuel, bienvenue. Alors je sais qu'Emmanuel, t'es en voiture, t'es avec tes enfants, donc ça sera peut-être un peu compliqué pour cette room, mais dès que tu veux parler,
ben, moi je préfère être à l'écoute en fait. Voilà.
Très bien. Alors je suis hyper content de faire cette room sur l'engagement et la motivation avec Benoît. Alors pourquoi? Et je te promets, mon Benoît, c'est j'ai beaucoup réfléchi à tout ça et je me dis. Moi, il y a un truc, on s'est jamais rencontré dans la vraie vie, Benoît. C'est vrai qu'on est des gens, on s'est croisés sur Clubhouse, mais il y a un truc que j'admire chez toi, vraiment, c'est que j'ai l'impression que tu as eu 1000 vies et qu'à chaque fois, il y avait un engagement total, une motivation totale. Tu as l'air d'être quelqu'un qui aime ce que tu fais. Donc, j'ai deux questions. Un, est-ce que tu comprends que les gens aujourd'hui puissent être désengagés et démotivés? Et la deuxième question, c'est est-ce que tu as une recette miracle pour être motivé?
Alors, je vais répondre à la deuxième question premièrement. Est-ce que j'ai une recette miracle? Non. Je pense qu'il n'y a aucune recette miracle.
Benoît, juste tu sors.
Non, malheureusement. Non, il n'y a pas de recette miracle. Il y a juste... être à l'écoute de soi-même, c'est le premier engagement qu'on doit prendre, c'est d'abord s'écouter soi. Effectivement, si tu fais des choses qui te nourrissent, il y a un micro. Attends.
Non, j'ai juste fait monter quelqu'un qui visiblement est un troll, donc je l'ai fait redescendre tout de suite.
Non, je voulais dire en fait, si tu fais des choses qui, quand tu portes le regard sur toi, te nourrissent, te font grandir personnellement, spirituellement, te font progresser professionnellement, et que tu en es complètement en phase avec ça, forcément, tu ne peux être que motivé. Alors bien sûr, la motivation au long cours, tous les jours, parce que malgré tout, dans le monde professionnel, on n'a pas tous les jours des super miracles qui se passent, on n'a pas tous les jours des super résultats, on n'a pas tous les jours quelque chose d'extraordinaire à annoncer. Il y a forcément une récurrence à travailler et surtout à se dire, bon voilà, je me fixe des petits steps, peut-être un step par jour, qui, ne serait-ce que de l'obtenir, va déjà créer une motivation à passer à celui de demain. Et après, il y a effectivement le résultat qu'on cherche à avoir, qui va être le méga graal, peut-être pour certains. Ça peut être soit un changement de carrière, soit obtenir un super contrat, soit, mais, et c'est je pense, être en adéquation avec soi-même, avec ce qu'on se fixe comme but, qui permet de maintenir sa motivation intacte.
Après, mais Benoît, ok, mais avant de donner la parole à Lilia, qui me fait l'amitié de monter, merci, bonjour Lilia, je t'en parle en deux secondes.
Bonjour Lilia.
Est-ce que, Benoît, est-ce que tu acceptes le fait que on n'est juste pas le droit, enfin non, pardon, ça y est, lapsus hyper révélateur. Est-ce que tu acceptes qu'on ait le droit certains jours, de juste pas avoir envie, pas être motivé. Est-ce que c'est grave, au final ?
Ah mais c'est un droit absolu à avoir.
On est d'accord.
C'est un droit absolu à avoir qu'il y a des jours où on a envie de rien, juste être avec soi,
et faut
par
pas
exemple,
culpabiliser.
Et ne rien faire. Ah mais non, parce qu'il faut ces moments-là pour pouvoir donner de l'énergie dans les moments où c'est important. Si on ne sait pas moduler son énergie, si on ne sait pas se reposer, si on est tout le temps à fond, c'est intéressant, mais à mon avis, je pense que ça ne marche pas.
Ouais, à un moment, ça tu lâches l'affaire, quoi. Alors, tu sais quoi, ouais. Benoît, c'est, je suis hyper content que Lilia soit là, parce que généralement, c'est quelqu'un qui a plein de choses intéressantes à dire. Chère Lilia, bienvenue sur le stage.
Merci Gaël, merci de me proposer de venir.
Ah ben non, mais je suis très content que tu sois là. Ah, on t'entend très très bien, mieux serait indécent. J'ai l'impression que tu es juste à côté de moi en train de me parler dans l'oreille. Merci beaucoup de nous faire l'amitié d'être là. Donc, pour les personnes qui écoutent le replay et qui ne voient pas Lilia, donc c'est une des figures de Clubhouse, on peut le dire. Tu es très très présente, très active. Donc merci d'être là. Donc, qu'est-ce que ça t'évoque, cette notion de motivation, d'engagement ? Parce que, alors, moi, je vais être un peu provocateur. En fait, j'ai envie de vous dire, ça me saoule, cette question. J'ai l'impression que c'est une injonction violente. Soit engagé, soit motivé, et que finalement, plus on me le dit, plus ça me déprime, en fait. Toi, ça t'évoque quoi ?
Alors, moi... Il y a deux choses. Alors, à la fois, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Benoît, que je salue, parce qu'il parle de grands objectifs et de petits objectifs. Et ça, je fais le parallèle avec le bonheur. Il y a la quête du bonheur, le grand bonheur, et puis des petits bonheurs de tous les jours. C'est un peu ça. Par contre, deuxième point, j'avais une question, c'est qui fait quoi ? C'est-à-dire, comment on fait, c'est qui on ?
C'est-à-dire, qui fait quoi ?
Est-ce qu'on parle du manager ? Est-ce qu'on parle des salariés eux-mêmes ? Est-ce qu'on parle des deux ?
Moi je pense que quand on parle d'engagement et de motivation, je pense que quel que soit le niveau hiérarchique, c'est-à-dire que moi je suis un fou furieux de aucune personne dans une entreprise n'est plus importante qu'une autre. Et on l'a mesuré pendant le premier confinement. Honnêtement, pendant le premier confinement, 17 mars 2020, très franchement, mes agents de caisse de mon Franprix étaient beaucoup plus importants que le PDG de Franprix. Hein. Donc, cette motivation-là, à mon avis, elle regarde absolument tout le monde. Donc, quand on parle d'engagement et de motivation, c'est qu'on soit manager, managé, peu importe, en fait.
Oui, tu voulais parler de sa propre motivation.
Oui, exactement.
Voilà, c'est ça. Ok.
Ouais, complètement. Comment est-ce que quand on est le matin, on se réveille, on a snoozé 3-4 fois, on n'a pas envie, comment on fait ? Certes, quand on est manager, c'est important de savoir remotiver ses équipes, mais déjà, soit individuellement, qu'on soit manager, managé, comment on fait pour retrouver cette motivation ?
Alors, j'ai envie de dire que dans les grands jours, c'est la question du sens global, de la mission que l'on a, quelle que soit l'échelle. Et puis, dans les jours moins bons, ben, on va trouver la motivation dans les petits événements en fait de la journée qui vont venir nous booster, nous donner un coup de lumière.
T'as un exemple, toi, par exemple, d'un... Moi, j'aimerais bien, Lilia, parce que je sais que tu fais plein de choses, d'un jour où t'avais vraiment le moral dans les chaussettes et il y a un petit truc où tu t'es dit « Oh, bim, ça va mieux ». C'est quoi ces petits événements ?
Alors, ça peut être une bonne nouvelle ou une interaction. Je trouve qu'on se nourrit beaucoup des interactions.
Donc genre tu parles à Châtelain-Berry et ça t'illumine ta journée.
Eh bien, Le trait est un peu...
La vanne de merde, je suis désolé, pardon.
Mais non, mais par contre, c'est vrai, et je crois que c'est des retours que tu as déjà eus sur des posts que tu as mis, avec des citations qui reboostent, en fait. Voilà, donc c'est ça, c'est des petits soleils qu'on a, et qui peuvent être des rencontres, ou des rencontres indirectes, comme des posts.
Mais est-ce que tu crois pas, avant de donner la parole à Catherine et à Amar juste après, est-ce que tu crois pas que, au final, on se prend tellement au sérieux qu'on en oublie que... Mis à part, bien entendu, les médecins urgentistes, les infirmières, les aides-soignants, tous ces gens qui travaillent dans vraiment le fait de sauver des vies, on se prend trop la tête et on a trop le sentiment parfois qu'on sauve des vies, que parfois il faut prendre ce petit pas de recul pour se dire, mais au final, ce qu'on fait, c'est pas bullshit, c'est pas ça. C'est juste, c'est pas aussi fondamental que ça, que si j'ai pas le moral, bon... C'est pas très grave. Est-ce que tu crois pas qu'il faut qu'on relativise avant tout ?
Non. Oui, sur deux points. D'une part, sur le fait que parfois, on peut ne pas aller très bien et c'est pas grave. Et puis, dans les tâches de tous les jours, on aura plus ou moins de réussite, de succès, de bonheur en fait, dans nos journées. Et j'ai une phrase que je répète, parfois on me répète, c'est... Ok, c'est grave, mais c'est pas grave. Et juste ça permet effectivement de prendre du recul.
J'adore ça. C'est grave, mais c'est pas grave. Non, mais c'est vrai. Enfin, je vois ce que tu veux dire. C'est in fine, le seul truc qui est grave, je vais plomber le moral de toute l'audience en une seconde. Le seul truc qui est grave, c'est la mort, in fine. Donc, dans nos métiers, bon, j'aime bien ce que tu dis. C'est grave. Mais c'est
grave pour les autres, Gaël.
Non, mais voilà.
Pas pour celui qui de la vie.
Oui, ça. Oui. Ah, on va pas se lancer dans un débat philosophique, mon Benoît. Bien sûr, mais t'as raison. Non, mais ce que je veux dire, c'est Lilia a raison. C'est grave, mais c'est pas grave. C'est très juste, en fait. Mais Lilia, et juste après, on donne la parole à Catherine. Quand tu te dis ça,
Vanessa iPhone.
Quand tu te dis c'est grave, mais c'est pas grave. T'y arrives aussi facilement que ça ?
Non. Mais le fait de me le dire, et quand je dis me le dire, c'est pas que dans ma tête, c'est vraiment de le dire à voix haute, ça permet de faire ce pas de retrait et d'observer. Alors la situation, bon, elle n'est pas idéale, comme elle n'est pas celle que j'aurais imaginée, j'ai eu une mauvaise surprise ce jour-là, ou je suis déçue, ou j'ai pas eu de bon retour. Bon. Et de mettre ça en perspective, effectivement, la vie au global, et quand on a eu un peu d'années derrière soi, de se dire, bon, moi, j'ai déjà vécu ce genre de tunnel difficile, de passage, et il finit toujours par arriver une bonne nouvelle ou une solution. Donc voilà, laissons le temps au temps.
Ouais, je suis tellement d'accord avec ça. C'est parfois... Et je crois que c'est... Alors, ça, c'est l'avantage d'avoir pris de l'âge, parce que tu es... beaucoup, beaucoup plus jeune que moi. En fait, je vais finir par me présenter comme une sorte de père Fourard de Clubhouse. Mais c'est vrai que je me rends compte que l'âge aidant, on relativise de plus en plus et on prend cette distance qui fait que... Je dis pas qu'on est imperméable à tout, c'est pas vrai. Mais que finalement, de moins en moins de choses nous stressent fondamentalement et qu'on arrive à se remotiver sur des choses... peut-être plus fondamentale. Catherine, merci d'être montée sur le stage. Tu fais partie aussi des fidèles de cette room, donc merci d'être là. C'est quoi ton regard sur cette question de la motivation et de l'engagement ? Est-ce que tu as des techniques ? Est-ce que tu... Voilà, qu'est-ce que ça t'évoque, cette question ?
Bonjour à tous, merci Gaël de
m'avoir invité. J'adore ta voix. Voilà, non, mais je suis obligé de le dire, mais c'est à chaque fois que Catherine parle, je suis content, parce que c'est une voix qui est douce, qui est posée.
Ah oui.
Voilà, non, mais j'étais obligé de le dire, donc bienvenue, et donc je te laisse la parole.
Ça doit être l'effet Clubhouse, alors. C'est pas ce qu'on me dit d'habitude.
Ben, il faut, voilà, tu vois, alors, là, voilà. Je fais une parenthèse sur ce que tu dis, sur... Je pense que la notion de motivation et d'engagement dépend aussi beaucoup du regard que l'on a sur soi-même. Et ce que tu viens de dire, alors que je te fais un compliment comme ça qui vient de nulle part, mais malgré tout, tu vas à l'encontre de ce compliment au lieu de dire « Eh, merci pour le compliment !»
Merci et Gaëlle.
Non, mais c'est hyper intéressant. Non, mais plaisanterie mise à part, Catherine, c'est un vrai truc sur oui. Parfois, on aime se flageller avec des orties fraîches au lieu d'accepter le petit compliment qui est un compliment à deux balles. Je te l'accorde. Mais malgré tout, on a quand même ce réflexe de dire « Ah, il y a un compliment, mais quand même, dans nos cultures, il faut quand même dire « Ouais, non, mais tu me fais un compliment, mais généralement, on dit que ma voix, elle est totalement pourrie. » Tu vois ce que je veux dire ? C'est hyper intéressant, ta remarque. Est-ce que c'est pas symptomatique, justement, autour de la motivation, de l'engagement, d'un truc où, quand on fait un compliment, il faut l'accepter, que peut-être qu'on oublie, de temps en temps, de se faire des compliments à soi-même ?
Oui, et c'est vrai, Gaëlle. C'est vrai, j'ai ce travers et je dois le corriger, donc je te remercie. Et en plus, je pense que tu l'as fait exprès pour sortir ton expression.
Non, c'est juste pour te flageller avec des orties fraîches, ma Catherine, bien entendu. Eh oui, tu seras flagellée avec des orties fraîches. Plaisanterie mise à part, Catherine. Donc, oui. Ton regard sur cette question de l'engagement, de la motivation, c'est...
C'est une question quand même hyper complexe, donc je trouve assez courageux et culotté de l'avoir mise en titre. Et moi, je dirais surtout, il y a vraiment ce jeu de l'entourage, des relations sociales qu'on peut avoir, qui a vraiment un impact sur aussi une ambiance positive et souriante, même dans les situations critiques et difficiles. Et ça permet de garder un certain engagement, une certaine motivation. Après, il y a des degrés différents, mais il est vrai que si une équipe, même dans la réussite, a une mauvaise ambiance, je pense que on n'est pas forcément engagé et motivé, malgré les résultats. C'est vraiment tout un environnement, pour moi, qui fait que on va se sentir motivé et engagé. C'est parce que ça libère quand même certaines hormones naturelles qui nous donnent ce dynamisme et cette énergie.
Mais est-ce que c'est si... Je vais te poser une question volontairement provocatrice. Est-ce que c'est si fondamental que ça que d'être motivé ?
Alors, je dirais que non. Moi, j'ai des collègues qui me disent qu'ils viennent juste parce qu'il faut gagner sa vie. Et alors, j'avoue
c'est la pyramide de Maslow. C'est au début, on travaille juste pour payer notre salaire et compagnie. Et en fait, Catherine... J'ai un exercice à te proposer, mais que toute la room peut faire, mais je vais te le proposer à toi, mais tout le monde peut le faire. Catherine, est-ce que tu es prête ?
Je relève le défi, vas-y Gaëlle.
Ferme les yeux. Tu les as fermés ?
Oui.
Ok. Nous sommes vendredi. Tu apprends que, sans le savoir, tu as acheté un ticket de l'Euromillion. Et tu viens de gagner 200 millions d'euros à l'Euromillion. Est-ce que tu changes quelque chose à ta vie professionnelle ? Tu viens de prendre 200 millions d'euros.
Alors, je changerai quelque chose parce qu'il va falloir que je gère tout cet argent.
Non, mais Catherine, en fait, si je pose cette question, c'est pour faire prendre conscience aux gens que la première des motivations pour aller travailler dans ce qu'on fait, qu'on ait des petits boulots, des gros boulots, peu importe, c'est l'argent. Et que je me rappellerai toujours de cette histoire de cet ouvrier à la chaîne qui a gagné 15 millions d'euros il y a quelques années, qui a démissionné le lendemain, parce qu'il a gagné plus en une journée qu'il aurait pu gagner dans une vie. Et 6 mois plus tard, il est revenu travailler, mais à mi-temps. Parce qu'il s'emmerdait à rien faire. Et il adorait son métier. Donc c'est pas une question de niveau hiérarchie, c'est qu'à un moment, il faut assumer le fait qu'on a le droit, fondamental de pas être motivé et de se dire parfois mon boulot me fait chier et c'est pas très grave, non ?
Oui, je pense que c'est normal. On a comme dans la vie des hauts et des bas et le fait de culpabiliser ne va rien arranger à la situation. On est engagé en général quand on croit réellement qu'on est aligné entre ses valeurs et l'objectif dans vraiment une volonté de à la fois pour l'entreprise, mais aussi qui répondent à nos valeurs. Et ça, je pense que l'engagement, la motivation, elle ne peut être qu'optimale dans ces conditions-là. Et après, il y a tous les agréments. Mais ne pas être motivé et faire un boulot alimentaire,
c'est aussi très bien parce qu'il en faut. Et c'est ce
mais
qu'on
faut en être conscient. En fait, c'est oui, juste le truc, c'est se dire, voilà, et c'est pas très grave. Mais c'est pour ça que je déteste ce concept de bonheur au travail. Et je rappelle toujours que dans, enfin, l'étymologie du mot travail, c'est tripalium. Tripalium, c'est le nom qu'on donnait à un instrument de torture chez les Romains pour punir les esclaves qui travaillaient pas bien. Donc le travail, c'est pas nécessairement un kiff et cette injonction au bonheur au travail, au côté le travail. Si tu surkiffes pas quotidiennement, t'es qu'une merde. Pardon pour l'expression. Hein. Ben, ouais, c'est violent.
Et
quand
je
même.
Pense que c'est un écueil de notre période, puisqu'en ouais. fait, tout le monde veut absolument s'éclater dans son travail. Et on se retrouve avec des zones d'activité, des zones de qui se retrouvent abandonnées parce que bah, on sait que c'est pas forcément une vie rêvée. Mais je pense qu'on est tous voués à prendre du plaisir dans des jobs complètement différents. Et heureusement, sinon on ne pourrait pas trouver tout du travail. Et c'est là où il faut accepter. Et on a un problème sur l'ego. De toujours vouloir plus, que la réussite, c'était les diplômes, que c'était que c'est une situation très financièrement très à l'aise. Moi, je pense qu'à un moment donné, dans une carrière, on peut très bien faire une très belle carrière, on peut dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel niveau hiérarchique, n'importe quelle couche sociale, à partir du moment où on se réalise et qu'on est en adéquation ouais. avec soi-même. Et
tu sais quoi, Béatrice, pourquoi je t'appelle Béatrice ? Allez, oui, Catherine, je t'appelle Béatrice maintenant. À un moment, il va falloir... Non, mais c'est la fin de la semaine. Avant de donner la parole à Amar, Catherine, mais mille merci pour ce témoignage. Avant de donner la parole à Amar et à Géraldine, j'aimerais demander au modérateur Benoît et Emmanuel, c'est quoi votre réaction par rapport à ce qui vient d'être dit ? Parce que je trouve ça hyper intéressant, le côté... Bah, finalement, le bonheur au travail, c'est juste une énorme blague et que la motivation... ce qui est important, c'est de la trouver dans sa vie perso, dans sa vie professionnelle, mais c'est quelque chose qui n'est pas une obligation. Emmanuel, je vois que tu as ouvert ton micro. Qu'est-ce que tu en penses ?
Oui, bah, moi, si je ne suis pas motivé, si je ne suis pas passionné par ce que je ne fais pas. Voilà, c'est tout.
Alors, c'est hyper intéressant. Alors, Emmanuel, je crois que c'est la première fois où je ne vais pas être d'accord avec toi. C'est, je pense que dans le travail... Il y a un ratio qui est le 80-20. 80% de notre travail, c'est des trucs qu'on aime ou qu'on adore, et 20% sont des trucs qui nous font chier. Moi, je vais donner un exemple, mon camarade. C'est faire ma compta, j'ai juste envie de me pendre dès qu'il s'agit de faire ma compta. Il faut la faire. Donc, je la fais. Mais je déteste ça. Et c'est pas grave, hein. Ça fait partie de mon taf. Alors, Dieu merci et... Pardon, j'allais dire big up à tous les comptables, le truc de Jones pourri. Mais c'est un peu ça, c'est je déteste ça, mais il faut le faire. Donc dans notre travail, il y a des tâches sur lesquelles on n'est pas motivé, non ? Benoît, rassure-moi, parce que je sais que donc là, Emmanuel dit qu'il faut être motivé pour faire quelque chose. Benoît, tu es d'accord ? Dans notre taf, il y a des trucs qu'on n'aime pas, mais on les fait parce qu'on sait que ça fait partie du truc, non ?
Alors, bien sûr, il y a plein de choses que l'on fait parce qu'il faut le faire. C'est pas pour autant quelque chose qui doit entamer la motivation.
Bien sûr.
Où est-ce qu'on place la motivation à faire son travail ?
Ouais, mais Benoît, c'est normal d'avoir des trucs qu'on n'aime pas dans son boulot, il faut en avoir conscience.
Oui, complètement.
Un boulot, c'est pas 100% kiff.
Exactement, mais c'est pour ça que je te dis, où place-t-on la motivation dans son travail ? Est-ce qu'on la place juste dans ce qui nous procure du plaisir, ou est-ce qu'on englobe l'entité totale du travail ? Et dans ces cas-là, on se ment pas à soi-même, on sait que dans des moments, on aura du kiff de ce qu'on aime et on va se réaliser pleinement là-dedans, et puis, mais il faut aussi passer peut-être par de la par des tâches qui sont peut-être moins
agréables. Ouais, des trucs qui nous font chier. Benoît, balance le mot. Des trucs qui nous font chier.
Le comptable adore faire ce qu'il fait, Et toi, tu n'aimes pas faire de la compta. Et tu enlèves 80% du plaisir à un comptable. Alors que toi, tu, c'était 20% de galère.
Et le truc qui est génial...
Chacun se place en fonction de ses envies, de ses goûts, de ses aspirations, de là où il se réalise le mieux. Et, mais y a, je suis sûr qu'un comptable, il y a 20% peut-être de choses qu'il fait qu'il n'aime pas, qui vont être peut-être de présenter des choses, de parler à des gens, à un public.
Et tu sais quoi, Benoît ?
Pour être dans son truc, tu
vois. Les 20% que le comptable déteste, ça trouve, sont les 80% que j'adore. Et exactement. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, j'ai vu que Lilia et Catherine ont claqué leur micro, mais mesdames, on va d'abord donner la parole aux nouveaux entrants et après, vous aurez la parole. Amar, je crois que c'est ta première fois sur ce stage, non ?
Absolument, Gaël.
Oh, mais et la vache, en plus, il a une voix de crooner, tu vas me vénérer, toi, en fait. bienvenue sur le stage, salut.
Salut, salut, bonsoir à toutes, à tous. Et très riche le débat, et j'avais envie de réagir à plusieurs moments parce que vous mentionnez beaucoup de notions sur le bien-être, le bonheur. Alors, de manière globale, moi, ma conviction, on assure son bien-être. Enfin, ce qui nous fait vivre heureux et longtemps, c'est d'entretenir de bonnes relations avec les personnes qui nous entourent, soit au sein de notre famille, nos amis, nos voisins et les personnes.
Le perso, tu veux dire, en premier.
Comment ?
En premier, la vie personnelle, en fait.
Absolument. Mais partout où on a des relations avec nos semblables, il faut entretenir de bonnes relations. Et c'est une étude super intéressante qui a été menée au MIT, qui a montré que quand on entretient des bonnes relations, eh bien, on vit plus longtemps et en bonne santé, pas forcément riche, bon, mais...
Mais quand tu parles de bonnes relations, Amar, pardon, parce que je crois qu'il y a vraiment deux sujets et qu'il faut bien séparer et qui, pour autant, sont complémentaires. On est bien d'accord que quand tu parles de bonnes relations, parce que j'ai vu cette étude du MIT, effectivement... Mais on parle quand même là du perso. Tu vois ce que je veux dire ? C'est, on peut très bien... Je grossis le trait, parce que tu sais, moi je suis un peu un bourrin, on ne se connaît pas encore, mais j'aime bien grossir le trait. On peut très bien détester son travail et pour autant avoir une vie personnelle extraordinaire, riche en relations et compagnie. Et le MIT, cette étude, montrait que si tu as une vie perso riche... comment dire, nourrissante intellectuellement, et même si tu détestes ton travail et que t'es pas heureux, pas motivé et que ça paye tes factures, bah tout va bien. In fine. Tout irait mieux si t'aimais ton boulot. Hein.
Je suis pas complètement d'accord avec ça. Je rejoindrais plutôt la remarque de Benoît où il faut trouver l'activité professionnelle qui nous convient. Celle qui nous permet de nous épanouir un temps soit peu.
Amar, j'étais volontairement provocateur, bien entendu. Oui, l'idéal, c'est d'avoir les deux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce que disait cette étude du MIT, c'est que mine de rien, même si t'as un boulot de merde, tu peux avoir une belle vie.
Bien sûr, absolument. Voilà. Alors moi, ce que je voulais peut-être ajouter au débat, c'est ma petite expérience. Et au tout début des années 2000, j'ai rejoint une start-up qui était donc qui travaillait un petit nombre de personnes.
J'adore. Ah bah attends, familiale. Je suis obligé de te couper. Tu dis au tout début des années 2000. Et mec, ça fait 21 ans en fait.
C'est ça. C'est ça. je suis pas tout jeune, je dois être de ta génération.
Donc c'est plus une start-up. voilà. J'adore. Pardon, hein. Pardon de faire cette vanne, mais c'est t'es toujours dans cette start-up en fait.
J'ai fait 16 ans de carrière dans cette boîte. Alors, ce que j'ai constaté, alors au début, on bossait très friendly, ambiance familiale. Et puis, très vite, quand on a commencé à monter en puissance, en recrutant de plus en plus de personnes, ce que le management, et le PDG notamment, a tenu à faire, c'est de mettre en place des process. Alors, les process, ça embête tout le monde parce que, faut appliquer des choses. Mais mine de rien, au bout d'un moment, on a constaté qu'un process avec ce qu'on appelle de l'assurance qualité, la qualité au travail. Et ça, ça a permis de faire sentir bien les collaborateurs en permettant à chaque personne de savoir ce qu'il avait à faire de savoir à qui il devait communiquer les résultats de son travail. Donc tous les problèmes de communication qu'on a classiquement quand les boîtes ne sont pas bien organisées et qui mènent à des problèmes, à des inconforts, hein, c'est beaucoup la com, le manque d'échange qui provoque souvent des conflits. Ben, tout ça a été réglé. Et surtout...
Mais par alors, des process, tu veux dire que le process a régulé les relations entre les gens, en fait.
Il a permis de mettre en place une gestion des conflits, des problèmes, quand il y avait un problème, quelque chose qui s'était mal passé, un projet qui s'était mal passé. Il a permis de résoudre les problèmes de manière factuelle et d'enlever tout ce qui est suspicion ou sentiment ou émotion, parce que c'est ça qui provoque souvent des décisions injustes parce que un tel manager, la tête de son collaborateur lui revient pas.
Amar, t'es en train de dire que la motivation et l'engagement est lié au process ?
C'est pas lié complètement au process, mais dans une bonne mise en place avec de process qui permet à chacun de savoir ce qu'il a à faire au quotidien, à qui il doit communiquer et en cas de problème, résoudre les problèmes de manière factuelle, de savoir rassembler des faits pour remettre en cause, non pas les personnes, mais parfois le process lui-même, parce que, bon, il n'a pas prévu toutes les situations, de remettre en cause la boîte qui a placé un collaborateur sur des fonctions qui n'étaient pas dans ses compétences, et auquel cas on explique au collaborateur, bon, on t'a mis sur un truc, c'était... t'avais pas toutes tes compétences, et on va te proposer une formation. Cette manière de conduire et de mener l'évolution des personnes et résoudre les problèmes avec des process qui cherchaient le plus possible à raisonner avec des faits plutôt que des suspicions. Ça a fait que la boîte, il y a eu très peu de turnover. Les gens ont fait des carrières de 10-15 ans.
Amar, c'est hyper intéressant ce que tu racontes parce que pour moi, et là, vraiment, je vais faire le candide neuneu à deux balles. Et pardon, hein, j'ai passé plus de 20 ans en entreprise, mais j'avais jamais percuté sur le sujet que tu lèves. Que finalement, l'engagement, c'est peut-être une question d'être capable d'être cartésien sur des sujets, au lieu d'avoir un espèce de truc diffus. Et ce que tu dis, c'est que les process, le côté on mesure... on est capable de dire qui fait quoi, comment, qui a bien fait, mal fait, j'aime pas le côté mal fait, mais le côté cartésien permet finalement d'avoir un regard objectif sur les tâches des uns et des autres, et qu'au final, comme c'est cartésien et que c'est pas un truc diffus, ça permet à chacun de se reconnaître dans la tâche, c'est ça que tu dis en fait que...
Oui, en quelque sorte. Alors, on a l'impression que ça enlève de l'humanité, mais pas du tout en fait.
Ouais, mais c'est ça qui est paradoxal dans ce que tu dis. Oui. C'est justement, oui. Ça semble tellement cartésien et limite ordinateur, quoi. Mais c'est incroyablement intéressant.
Oui, parce que ce qui pose problème, hein, ce qui pose problème dans les boîtes, c'est les personnes qui ont du mal à travailler ensemble, qui communiquent mal. Et quand il y a un cadre qui permet à ces personnes-là de résoudre les problèmes en leur expliquant qu'on n'est pas là pour les juger, mais qu'on regarde les faits en face et on regarde et en bonne intelligence, on règle les problèmes en se basant sur des faits. Et non pas des suspicions ou parce qu'il y a des préférences, un tel préfère... va défendre telle personne parce que...
J'adore ce que tu racontes, Amar. Et alors... J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. Est-ce que tu es prêt, Amar ?
Oui, je t'en prie.
Alors, la mauvaise nouvelle, c'est pour la room. Je viens de couper les mains levées, donc plus personne ne peut monter sur le stage. Désolé. La bonne nouvelle, je vais te présenter quelqu'un qui, je pense, ne sera pas forcément d'accord avec toi. Et ça va vraiment m'intéresser d'avoir... le regard de Géraldine, donc qui est montée sur le stage il n'y a pas très longtemps, et qui, je pense, a un côté plus... j'aime pas dire humain, parce que Amar, honnêtement, moi, c'est respect pour ce que tu as dit, parce que j'avais jamais vu les process et les trucs cartésiens comme une vraie source de motivation. Et tu m'énerves, Amar, parce que en fait, je me dis, merde, il a raison, j'y avais jamais pensé. Donc, Amar, je suis à deux doigts de te descendre du stage. Non, mais c'est passionnant, mais j'ai envie de savoir, Jay, Géraldine, c'est quoi ton regard, ce que vient de dire Amar, parce que honnêtement, moi je te le dis très franchement, ce que vient de dire Amar a changé vraiment mon regard sur la motivation de l'engagement, qui pour moi était un truc un peu diffus et sur l'humain, alors que Amar il nous dit non mais hé les gars, la motivation et l'engagement, faut partir sur du cartésien et sur du concret. C'est toi, Géraldine, que je connais un petit peu. Alors, on va pas se mentir, j'ai déjeuné avec Géraldine aujourd'hui, donc on se connaît un petit peu. C'est quoi? Ben non, mais faut pas mentir à l'audience.
Il l'a dit.
Mais non, mais faut pas mentir aux gens. C'est quoi ton regard, ce que vient de dire Amar?
Alors, ouais, donc moi je partage, hein, j'ai trouvé ça très très intéressant. Et quand j'écoutais Amar, j'étais en train de penser au fait que moi j'ai fait pas mal de développement personnel. Alors je sais qu'il y a des gens à qui ça parle et d'autres à qui ça ne parle pas. Mais dans le développement personnel, si vous voulez, j'ai réglé mes problèmes, mes problématiques internes à moi personnel de jugement, de jalousie. Et donc en fait j'ai développé, alors je l'avais déjà, hein, c'était inné, mais j'ai développé mon empathie et mon écoute active. De fait, à un moment donné, en tant qu'indépendante, je me suis retrouvée dans cette période de freelance, je me suis retrouvée avec le Work Lab à animer des ateliers d'intelligence collective, alors que je n'avais pas été formée, d'intelligence collective et de design thinking en entreprise. Et ça, c'est génial. Donc en fait, je rejoins en partie Amar sur les process, mettre du process cadré et structuré, pour mettre de l'humain là-dedans. Et j'aime bien ce que tu as dit, Gaëlle, puisque tu as dit, alors avec Géraldine, on va remettre de l'humain dans les process, mais pour remettre de l'humain là-dedans, c'est lorsqu'on fait des ateliers d'intelligence collective, eh ben on met tout le monde autour d'une table et on mélange les métiers. De fait, les gens qui n'ont jamais la parole, les gens qu'on ne voit pas parce qu'ils sont dans l'administratif ou la comptabilité, eh bien en fait, tout le monde a le droit à la parole. Tout le monde a son possible pour dire les choses.
Géraldine, tout le monde pardon de t'interrompre, mais ce que dit Amar, c'est justement, avec la technique d'Amar, c'est quel que soit ton niveau hiérarchique, quel que soit ton métier, si on dit ton objectif c'est ça et c'est cartésien, c'est mesuré et que tu l'atteins, que tu sois homme de ménage ou PDG, ben si tu l'atteins, t'es motivé. À partir du moment où t'atteins tes objectifs, c'est cool. Alors que si c'est un truc du Géraldine, il faut que tu trouves ta motivation en toi. Enfin, tu sais, tous les trucs un petit peu psycho, machin. Moi, j'adore ce que dit Amar sur un moment. Si c'est mesurable, si c'est, quel que soit le niveau hiérarchique, tu peux être motivé parce que tu peux savoir si tu as atteint tes objectifs ou pas. Non ?
Est-ce que je peux ajouter une toute petite précision ?
Ah, mais bien sûr, Amar, bien sûr.
Parce qu'il y a un service qu'on appelle dans les boîtes qui mettent en place des process qui s'appelle assurance qualité. Alors d'abord, les process, c'est un consensus, hein, c'est pas un truc que tu subis. D'abord, si on prend par exemple une équipe de R&D, l'équipe marketing, l'équipe commerciale, elles se réunissent avec le management et on dit voilà comment on veut travailler. Puis on définit le process ensemble. Mais on n'a pas juste du premier coup. Alors ce que fait l'assurance qualité, c'est que chaque année, il y a des audits individuels et collectifs où chaque personne peut dire ben, finalement moi je ne suis pas très à l'aise avec le process, il y a tel et tel aspect qui m'ont gêné voilà. Donc il y a ce qu'on appelle le méta-process d'amélioration continue et qui est cette dimension humaine hein, qui vient se greffer évidemment parce que c'est pas un truc froid qui est établi, rigide et en plus on t'explique que ça va pas à l'encontre du créatif parce que on s'autorise du hors-piste, du hors-process quand il le faut, parce qu'une boîte ça évolue et que parfois en face d'une opportunité de nouveau
ce que tu veux dire c'est que c'est pas du cartésien à 100% et qu'à un moment on peut pas être robotique, quoi. Il faut savoir sortir du cadre.
Voilà, absolument. Et puis, c'est un consensus, un process. C'est vraiment quelque chose qui est établi par les personnes qui vont travailler ensemble.
Alors, je sens que Géraldine est chaude patate pour répondre à ça. Et après, on va donner la parole alphabétique à Catherine et à Lilia. Désolé, Benoît et Emmanuel, mais on est obligé d'être galants. Géraldine, tu as la parole.
Merci. Tu vois là, dans ce qu'il a ajouté, Amar, il a ajouté le collectif. Et ça, c'est fondamental. Moi, je vais parler pour moi. Lorsqu'on a des objectifs communs, qu'on doit travailler en équipe, pour moi, c'est source de motivation.
Mais je vais être super provocateur, Géraldine. Je suis désolé. Hein. Je peux être... Géraldine, est-ce que tu m'autorises à être provocateur ?
Oui, tu l'as fait depuis le début de cette room. Vas-y, Gaëlle.
Mais non, je suis un gentil garçon. Mais non, mais je crois pas à la motivation collective. Je pense que la motivation, c'est quelque chose de profondément individuel. Profondément individuel. Et je pense que quand on parle de motivation collective, c'est bullshit, mais totalement. Et il y a plein de startups avec les, enfin, pas avec lesquelles je travaille, mais que j'observe, qui disent, ouais, nous, on est motivés collectivement, mais faut arrêter ce délire, quoi. Non. La motivation, c'est individuel. Et il faut parler aux personnes. Je crois pas à la motivation collective, mais du tout. C'est comme si on parlait, alors je vais être encore plus provocateur, Géraldine, pardon. C'est comme si tu me disais, non mais l'amour c'est pas individuel et l'amour ça peut être une partouze. Ben non, je suis désolé, c'est l'amour c'est avec moi par rapport à une personne, c'est pas un truc collectif. Je n'aime pas ce concept de motivation collective. Donc Géraldine, essaye de me convaincre sur la motivation collective.
Alors en fait, il faut forcément que tu puisses distinguer les personnes et les personnalités qui sont dans le groupe pour voir quels sont les leaders, ceux qui sont impliqués, motivés, engagés. Moi, je sais que, tu vois, là, je parle avec passion parce que tout ce que je fais est passionnant. Mais c'est moi qui décide de ce que je fais.
Ouais, mais
et
c'est donc, toi avec toi.
Tu trouves des personnes comme ça. Oui, c'est moi avec moi.
Ah, mais voilà.
Mais forcément, dans le groupe, il va y avoir des personnes que je vais pouvoir embarquer, fédérer dans le projet et embarquer. Et il y a des gens qui vont être plus réticents. Et eux, en fait, il va falloir être à l'écoute de leurs besoins et les positionner là où ils ont envie d'être. C'est ça qui est important.
Si je peux.
Ouais, alors, Catherine. Ah, mais c'est même pas que tu, Catherine, c'est même pas que tu peux enchaîner. Tu sais quoi? J'allais donner la parole, puis à Lilia, parce que je sais que tu as claqué ton micro depuis 4 heures. J'aime bien parce que.
Qui nous cherche aujourd'hui, Gaëlle?
Ouais, non, mais je suis taquin. Je suis d'humeur taquine aujourd'hui. Vas-y, Catherine, je te donne la parole, bien sûr.
Et ben c'est vraiment dans la transition de Géraldine, en fait, c'est savoir, dans l'écoute active, c'est utiliser l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire savoir la composition de l'équipe, qui est la personne qui est motivée, qui est la personne qui est créative, qui est la personne qui est positive. Et c'est les énergies ensemble qui vont générer la motivation collective. Parce qu'il y en aura forcément un qui va être plus bas que l'autre. On aura tous individuellement des motivations en berne ou en haut. Et c'est le fait de l'intelligence du manager ou du coordinateur ou de l'animateur, comme vous voulez maintenant avec toutes les modes de management et d'organisation d'entreprise, start-up, grosse, agile. On est dans le besoin d'identifier ce type de personne pour redonner de la dynamique. Et,
oui,
et moi, mon
Catherine...
expérience projet, c'est qu'à partir du moment où on n'a pas des objectifs communs, on a moins d'engagement et moins
mais
de motivation.
Mais je ne suis pas d'accord, Catherine. Pardon. Alors, je vais...
Mais on a besoin d'une motivation individuelle, Gaëlle.
Est-ce que je peux taper du poing... attends, je vais essayer de taper du poing sur la table et que tu entendes. Alors, attends, est-ce que tu es prête, Catherine? Est-ce que tu as entendu mon poing sur la table?
On aurait plutôt dit une petite tapette à mouche. Mais
oh,
oui.
Comment tu es méchante. Non, mais je tape du poing sur la table parce que j'ai le sentiment qu'il y a quand même, dans les théoriciens du bien-être au travail, de tous ces trucs-là, un truc très collectivo-collectif, un peu, j'allais dire, presque années 70, quoi. Enfin, moi, je pense que la motivation, si elle n'est pas avant tout individuel, Et je pense qu'on peut avoir une motivation individuelle, même s'il n'y a pas de motivation collective. Et je sais que c'est provocateur ce que je dis. Mais je pense qu'avant tout, il faut penser aux individus. Et je pense que la pandémie a ajouté à ça, c'est que chaque individu est important et qu'il faut penser à la motivation de chaque individu avant de penser à la motivation collective. Alors que le monde d'avant, c'était exactement l'inverse. On pensait à la motivation collective, on se disait « Ah, on a la motivation collective !» Et ensuite, chacun des individus doit aller piocher là-dedans. Et je pense que la pandémie a inversé ce paradigme. Que maintenant, faut s'intéresser à chaque personne.
Et justement, dans ce travail de collaboration, où on pourrait penser oublier la motivation individuelle pour le collectif, c'est que si on met en valorisation les talents et les compétences, quel que soit le niveau, qui fait que tout l'équipe travaille, agit parce qu'on est justement une équipe et complémentaire, valoriser les personnes, c'est aussi réengager et remotiver individuellement. Et la réussite du groupe participe parfois à une baisse de motivation d'un individu parce qu'il est moins peut-être performant ou il est dans une mauvaise passe, il a un mauvais, c'est pas sa période. Et ben le fait que les autres avancent et disent « mais on a besoin de toi », peut le remotiver. Et c'est là le fait d'être valorisé, de retrouver de la motivation individuelle.
Ouais, je comprends ce que tu dis. Alors, Benoît, j'ai vu que tu as claqué ton micro, donc je vais te donner la parole. Mais d'abord, galanterie oblige, Lilia, ça fait à peu près 4 heures.
Lilia d'abord.
Ouais, mais Lilia, ça fait 4 heures qu'elle a claqué son micro et je me flagelle avec des orties fraîches parce que je n'ai pas donné la parole avant. Lilia, par rapport à tout ce qui vient de se dire, j'adorerais que tu nous dises, c'est quoi ta réaction par rapport à tout ça?
Alors, je te remercie de donner une sorte de synthèse de ce qui vient de dire, parce qu'on est parti sur des sujets qui, à mon sens, en fait, sont un peu différents. Parce que la motivation, c'est l'élan. L'élan qui fait qu'on va se mouvoir, qu'on va agir seul ou en groupe. Alors la motivation globale, effectivement, ça n'existe pas. Par contre, il y a un mouvement commun qui dans l'idéal est harmonieux et concerté, mais pas toujours. Et en tout cas, la question de la motivation que tu soulèves, c'est pourquoi en fait j'agis. Quel est mon moteur? Mon moteur, il peut être complètement externe à l'entreprise.
Mais c'est au-delà de ça, Lilia, c'est pas que pourquoi j'agis, c'est qu'est-ce qui me fait envie dans mon travail? Non?
Alors, l'envie, c'est une nuance de la motivation. Et justement, je pensais à la pyramide de Maslow. Tout à l'heure, tu disais, voilà, il y en a qui travaillent pour manger, pour financer des études, pour...
Ouais, ce qui est le premier truc, ouais.
Mais dans un idéal qui a été évoqué, qui n'est pas forcément un idéal partagé par tous, mais qui est un des idéaux qui ont été évoqués, c'est l'épanouissement, la réalisation de quelque chose qui fait sens pour soi. Et là, on est au sommet de la pyramide de Maslow. Et finalement, est-ce que toutes ces motivations sont égales? Est-ce qu'il y aura une échelle des motivations comme on a la pyramide de Maslow? Ou bien est-ce que toutes ces motivations sont à un égal niveau et mobilisables de la même manière?
Mais alors, Lilia, j'ai une question un peu provocatrice parce qu'on arrive vers la fin de la room. Est-ce que tu ne penses pas que toutes ces questions de motivation, c'est un peu bullshit en fait? Et que... Enfin, je sais pas, je pose cette question parce que, avec ce qu'a dit Amar, ce qu'ont dit Catherine, Géraldine, Benoît, enfin, tout le monde, c'est. Est-ce que c'est si important que ça? Et c'est très provocateur que j'ai posé comme question, et je suis désolé, Malilia, c'est à toi que je la pose. Est-ce que c'est si important que ça d'être motivé? Je parle dans sa vie professionnelle. Si tant est que sa vie personnelle, tout va bien. Est-ce que c'est si important ça d'être motivé?
Ça va dépendre de l'impact de la motivation sur le mouvement.
C'est-à-dire?
Est-ce que moi-même j'ai besoin d'être motivé pour pouvoir agir et faire mon taf, faire mon job? accomplir ma mission.
Mais si, enfin, je vais grossir le trait volontairement, mais je suis très très. Alors, je vais vous raconter un petit peu de ma vie personnelle. Alors, désolé par avance, mais je suis très très pote avec tous les agents de caisse de mon Franprix d'à côté de chez moi. Je leur parle énormément. Je kiffe ces gens. Et c'est pas qu'ils détestent leur travail, mais juste, bah, c'est un travail. Par contre, quand ils me racontent leur vie perso, mais ils ont des vies perso, mais de malade. Il y a un mec, il s'appelle Mamadou, il est au Franprix et son boulot le passionne pas plus que ça, mais il vient de revenir de 2 semaines en Grèce et il me raconte ses vacances en Grèce. Et c'est ça qui le motive et sa vie, de son point de vue, est extraordinaire parce que son boulot qui le passionne pas plus que ça, lui permet d'avoir une vie personnelle extraordinaire. Et en fait, j'ai le sentiment qu'on a une pression depuis un certain nombre d'années sur « faut être motivé pour son travail, faut trouver du sens dans son travail, il faut trouver du bonheur, de la motivation et compagnie », et qu'au final, on en oublie le truc fondamental qui est « mais dans ta vie personnelle, est-ce que t'es heureux en fait ?» Et je trouve que, on arrive presque à la fin de la room. Enfin non, on arrive à la fin de la room. Est-ce que la question de la motivation à travail ne devrait pas passer après, largement après, sur est-ce que ta vie personnelle t'apporte de la satisfaction? Et avant de donner la parole aux modérateurs, donc Benoît et Emmanuel, Lilia, j'aimerais bien, enfin, alors je suis désolé, enfin non, oui, je vais poser la question à Lilia, Catherine, Amar et Jay avant de faire la conclusion avec Benoît et Emmanuel. Est-ce que la question, et je vous demanderai des réponses courtes à toutes et à tous, est-ce que la question de la motivation au travail ne doit pas passer largement après la question de est-ce que tout va pas bien dans ma vie personnelle? Lilia.
Pour moi, c'est une partie de l'équilibre global. Donc, la motivation, c'est pour moi, c'est au sens large, en fait. Le mouvement, que ce soit dans l'entreprise ou dans la vie personnelle.
D'accord, donc tu ne fais pas, en fait, de lien de hiérarchie entre les deux.
Non, c'est un équilibre global et en plus qui va dépendre des personnes.
Hyper intéressant. Ouais. Merci, Lilia. Catherine, tu répondrais quoi?
Moi, je répondrais, ce que je t'avais envoyé en DM, c'est un peu l'ikigai, c'est un équilibre qui va varier en fonction de notre vie, de notre période de vie et de nos besoins. C'est vraiment trouver un équilibre sur ce qu'on est doué pour faire, ce qu'on aime faire, ce que le monde a besoin et pourquoi on va être payé. Et c'est un équilibre qui peut bouger dans le temps en fonction de nos compétences, de nos accidents de vie, de nos besoins, de ce qu'on aime. Voilà.
Ok, hyper intéressant. Amar, notre ami cartésien, j'ai t'appelé Descartes ce soir. Donc Descartes.
Moi, j'en reviens à ce que j'avais dit au tout début, c'est il faut entretenir de bonnes relations, que ce soit, ça commence par la famille, les amis, notre entourage, mais aussi professionnellement. Et je pense que la motivation, elle vient naturellement du retour et de la satisfaction que l'on a à entretenir ces bonnes relations, du retour que l'on obtient après avoir entretenu de bonnes relations.
Et parce donc, Amar, ma question, elle est simple, c'est est-ce que tu peux être motivé dans ton travail si tu as une vie personnelle de merde? Pardon d'être trash un peu.
Non, mais je suis d'accord. Sinon, mais c'est extrêmement difficile, puisque tôt ou tard, des difficultés tu as dans ta vie personnelle vont se refléter donc c'est, je rejoins Lilia, c'est une question d'équilibre d'une part, mais la motivation, elle vient de ce que finalement tu constates, de ce que tu obtiens en retour, reconnaissance de ta contribution à un travail. On dit ben ouais, c'est super ce que t'as fait, t'as été bon. On aime bien satisfaire quand même un peu son ego, c'est pour ça qu'on fait aussi des choses. Mais le retour d'avoir entretenu de bonnes relations, que ce soit avec sa famille, avoir de la tension, il y a un bouquin, alors je vais pas squatter la parole, qui traite de la richesse et de la pauvreté des nations. Les nations riches, c'est celles pour lesquelles, dans le monde du travail, les gens se sacrifient pour les autres, en enrichissant les autres avant de s'enrichir, et qu'en enrichissant les autres, on finit par s'enrichir. C'est comme le boulanger.
Ah, c'est le principe du partage, quoi.
Il est pas, si le boulanger n'est pas motivé pour se lever à 4 heures du mat pour pétrir sa pâte et te faire un bon pain, parce que c'est la satisfaction qu'il obtient, la motivation qu'il finit par obtenir, c'est le retour que tu lui fais en lui disant merci pour le super pain que tu nous fais et que tu passes du temps avec lui quand tu vas le voir pour lui acheter son pain. Tout ça, c'est des éléments de motivation. C'est le retour des relations que tu entretiens au niveau personnel et au niveau professionnel qui finissent par te motiver, te donner cet élan dont parle Lilia, me semble-t-il.
Amar, alors je suis désolé, je vais reparler, putain, mais aujourd'hui, dans cette room, j'arrête pas de parler de ma vie perso, mais quand tu parles de pain, il se trouve que j'ai parlé avec un des boulangers de ma boulangerie ce matin, et je me lève très 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 tôt, et je vais acheter mon pain très, très, très... Enfin, c'est pas moi qui mange le pain, c'est mon épouse. Donc, je vais acheter du pain pour mon épouse. Et c'est vrai que le fait d'avoir parlé du bonheur de ce pain chaud, à quel point c'est bon, à quel point c'est agréable, je voyais dans les yeux de mon boulanger cette espèce de bonheur de se dire... Bah, ça vaut le coup de se lever comme un gros con à 4 heures du matin pour faire mon pain, parce qu'il y a alors un mec, mais j'imagine qu'il y en a plein, qui disait merci. Et je pense que la motivation, ça vient vachement du regard des autres et du commentaire des autres pour dire... Et c'est pour ça, il faudra peut-être qu'on fasse une room sur le feedback un jour, sur le côté comment il faut savoir et réapprendre peut-être parfois à dire merci. Géraldine, toi, ton regard là-dessus, alors, est-ce qu'on peut être motivé dans sa vie professionnelle si on a une vie personnelle toute pourrie ou l'inverse? C'est quoi ton regard?
Alors moi, mon regard, c'est que je suis motivée naturellement, et ça, je l'avais dit à plusieurs reprises hein, sur les Morning Boosters, et c'est pour ça que je les animais, parce que j'avais une telle énergie le matin que j'avais envie de la transmettre.
Ah oui, et alors pour les personnes qui ne connaissent pas Géraldine, avant l'été, avait une grosse matinale sur Clubhouse qui s'appelait les Morning Boosters. Et peut-être,
allez.
Bon ben, peut-être que ça reviendra un jour.
Peut-être que
mais
ça reviendra un
jour. Mais c'est un autre
sujet. Mais c'est un autre sujet. Donc, au niveau de la motivation, justement, quand je te disais que moi, j'étais quelqu'un de passionné, je vais aller chercher, que ce soit dans mon travail ou dans ma vie privée, dans mes relations, auprès de ma famille, je vais aller chercher tout le positif, tout ce qui me motive. Et je vais essayer, et ça c'est pas simple, d'évacuer tout ce qui pourrait me démotiver, me mettre en bad. Voilà. Donc je vais toujours, toujours vers le positif, chercher le positif. Et tout ce que je fais, toutes les actions que je mène, que ce soit dans ma vie perso ou pro, et ben en fait me motive puisque c'est moi qui les déclenche. Voilà. Et même au niveau du job.
Mais c'est vachement bien ce que tu dis, Géraldine, mais je pense qu'il y a des jeunes auditeurs ou auditrices qui se disent « mais j'adorerais pouvoir faire ça », mais c'est quelque chose, mine de rien, qui s'apprend avec le temps. Et je pense que notre motivation et notre rapport au travail évoluent vachement avec l'âge. Et j'assume mon côté vieux, j'ai 51 ans, et c'est vrai que mes sources de motivation ne sont pas les mêmes aujourd'hui que quand j'avais 20 ans. Alors, on arrive à la fin de cette room, et ça y est, on est déjà à la bourre, il est 19h07, et les amis, on est super à la ramasse, parce que je suis censé être pire qu'une horloge suisse, donc j'ai demandé un mot de conclusion à mes chers modérateurs Emmanuel et Benoît. Donc Emmanuel, en premier, si tu es là, est-ce que tu as un mot de la fin sur ce sujet? Je trouve qu'on a eu vraiment des interventions passionnantes. Merci Lilia, merci Catherine, merci Amar et merci Géraldine. Emmanuel, ça serait quoi ton mot de la fin par rapport à tout ce qu'on a entendu aujourd'hui?
Mon mot de la fin serait, effectivement, je suis d'accord avec Catherine. Pour moi, la motivation, elle est d'abord personnelle. Je suis d'accord aussi avec toi. Et la motivation devient relationnelle, en fait. Et finalement, les motivations, quand elles deviennent relationnelles, finalement, c'est l'addition de motivations unipersonnelles. Et donc, en devenant relationnelle, elle devient plus forte. Voilà. Et c'est tout mon travail que j'apporte aujourd'hui en accompagnant les sociétés avec ma start-up Work Well Together. Et on travaille là-dessus.
Bah, c'est top. Merci Emmanuel. Alors, j'ai envie de dire, c'est un petit peu calculé de ma part, et je suis un vilain garçon, mais je voulais que ça soit Benoît qui clôture cette room, parce que Benoît, on a... Alors, encore une fois, je n'ai jamais rencontré Benoît physiquement, mais il faut que vous sachiez que j'ai créé un personnage qui s'appelle Bob, qui est le pire manager du monde, et Benoît, avec beaucoup d'humour, se prétend être le premier fan de Bob, le pire manager du monde, alors que Benoît est quelqu'un que j'ai appris à découvrir au travers de Clubhouse, parce que ce mec a eu 1000 métiers et qu'il a un regard... Je trouve sur le monde du travail et sur sa relation au travail qui est extrêmement intéressante. Et donc, je suis assez content, mon cher Benoît, que ce soit toi qui finisse et qui clôture cette room, parce que toi qui as eu 1000 métiers, et au final, quand on a 1000 métiers, il y a plein de gens qui disent « Oh, ça doit être trop cool d'avoir 1000 métiers ». Je sais, pour en avoir eu peut-être pas 1000, mais un certain nombre, que ouais, la motivation, faut aller la chercher parfois au fond de ses tripes et que c'est pas aussi facile, même quand on a 1000 métiers, de trouver cette motivation. Je voulais que tu fasses la conclusion de cette room parce que quand on a fait 1000 métiers, ben, je trouve que c'est important que tu conclues et ça serait quoi ton mot de la fin sur cette room autour de la motivation et de l'engagement?
S'il y avait un mot, Gaël, qu'on ait fait un métier ou 1000, qui est pour moi l'essentiel de la motivation, qu'elle soit dans l'entreprise, dans sa vie personnelle ou même dans le sport. La seule chose qui peut être tangible dans la motivation, c'est la clarté du but. Où est-ce que je vais est la seule raison. Et je rejoins parfaitement Amar. Dans la clarté du but, on met du process. Le process permet de clarifier, de savoir comment je me positionne. Et par rapport à qui je suis en tant qu'entité, je vais avoir peut-être une personnalité volubile, je vais créer du lien plus facilement que quelqu'un qui va être un peu plus timoré dans l'équipe. Quand je dis équipe, on parle d'équipe de travail, mais c'est pareil sur un terrain, c'est pareil sur plein d'endroits. Il y a des gens qui vont savoir créer du lien dans l'équipe, ils vont être très sociaux, d'autres qui vont être beaucoup plus réfléchis, qui vont apporter justement une réflexion, une prise en arrière. La seule chose qui est importante pour motiver les gens, c'est la clarté.
Mais Benoît, c'est très fort ce que tu dis. Enfin, pardon, c'est en fait la motivation, c'est pas un truc au quotidien, in fine. Enfin, pardon, j'essaie d'interpréter ce que tu viens de dire et... on déborde, donc là je suis en train de me faire mal parce qu'on va aller au-delà de l'heure. Ouais, oh, arrête de rire, c'est bon. Mais en fait, ce que tu dis, c'est que la motivation, c'est pas un truc du quotidien, c'est parce que je comprends le but que je vais atteindre. C'est un petit peu comme le golfeur, la motivation, elle est de mettre cette putain de petite balle dans le trou, même si je mets 3, 4, 5, 6 ou 10 coups pour arriver à l'objectif. C'est ça qui est important et c'est ça qui va me motiver, c'est de mettre cette petite balle dans le trou et c'est pas forcément le début, c'est ça, c'est l'objectif qui va me motiver en fait.
Alors, l'objectif, oui et non, j'ai bien précisé, l'objectif fait partie du process, mais c'est la clarté.
D'accord.
La clarté, être clair avec
soi-même. D'où l'importance du management. Mais pas.
Exactement. Pas être avec clair soi-même. Vers le but qu'on veut se fixer, qui peut éventuellement évoluer. C'est ce qu'a dit Amar. Le process n'est jamais qu'une photo à un moment donné qui est, volonté commune de se dire, OK, si on fait comme ça, on doit y arriver. Mais effectivement, si on n'y arrive pas, on peut changer le process, et même si on y arrive, on peut le changer pour l'améliorer. Donc c'est jamais, c'est tout le temps mouvant. On est tous tout le temps en train de d'évoluer. À chaque seconde, on évolue. Merci pour ce que tu as dit sur moi. Ça m'a fait évoluer par rapport à la vision que je peux avoir de moi vis-à-vis de toi et toi vis-à-vis de moi. On est tout le temps en train d'évoluer, mais la seule chose qui doit motiver les gens pour les motiver, c'est la clarté de ce qu'on attend, la clarté de ce qu'on veut faire, la clarté de ce que l'on est.
On a dépassé quasiment de 15 minutes, mais je suis obligé de te poser une question à laquelle tu vas devoir répondre par oui ou non, sans aucun problème. Commentaire. Est-ce que tu es prêt?
Ouais. Oui.
Ok. Est-ce qu'il est possible d'être motivé avec un manager de merde?
Oui, c'est possible. Mais c'est compliqué.
Mais je te crois, mais tellement pas. Mais arrête de mentir. J'adore parce que
sinon tu vas en burn-out perso. Il faut te motiver à trouver quelque chose au fond de toi qui te fait te lever le matin. Sinon tu pars en burn-out.
Moi, je crois profondément que la motivation est quelque chose, comme l'a très bien dit Amar, comme vous l'avez tous et toutes si bien dit. Je crois que la motivation, c'est quelque chose de global, qu'on est toutes et tous acteurs de notre propre motivation, mais que un environnement quand même bienveillant et qui va vers des objectifs et qui explique, comme tu l'as très bien dit Benoît, qui explique très clairement quel est l'objectif, et donc ça c'est le management, et ben ça permet quand même d'être motivé. Donc je sais Benoît que tu n'as pas voulu répondre non, ce n'est pas possible parce que toi tu es fan de Bob, le pire manager du monde.
Mais oui,
donc
c'est parce que j'aime trop Bob.
Mais je sais, que profondément on est totalement d'accord. Et les amis, c'était une room formidable. J'ai adoré ce moment. J'ai pas de mots pour vous remercier assez de ce moment passé ensemble. Je rappelle que cette room, va être en replay si jamais vous êtes arrivé en cours à partir de dimanche matin sur toutes les plateformes, que ce soit Apple Podcasts, Spotify, Deezer, enfin toutes. Et là, je suis revenu à mes mauvaises habitudes, les amis. Je ne sais pas quel est le thème de la semaine prochaine, mais par contre, si jamais vous voulez participer, vous pouvez aller sur la room Happy Work, vous cliquez sur la petite maison verte et vous abonnez et vous serez au courant de la prochaine room et vous pourrez monter. J'ai envie de dire un immense, immense merci à Lilia, à Catherine, à Amar et à Géraldine de nous avoir fait l'amitié de monter sur cette room pour participer de façon hyper constructive. Alors forcément, on est censé être 5 ou 6 modérateurs, mais il y a des grosses feignasses qui avaient des week-ends, qui avaient des trucs importants. Emmanuel, Benoît, mille merci d'être là. Donc ils font partie de la team des modérateurs et c'est toujours un vrai bonheur de faire cette room. Et je finirai, comme d'habitude, cette room avec deux phrases. La première, je vous souhaite un excellent week-end. Et l'autre, qui est la conclusion de tous mes podcasts Happy Work. Avant toute chose, prenez soin de vous.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.